Bonjour à toutes et à tous, nous allons aujourd'hui corriger le sujet qui porte sur les détecteurs de fumée qui permet de réviser différentes notions importantes. En première partie, tout ce qui concerne les conditions par exemple de diffraction, l'énergie transportée par un photon, donc des notions qui tombent très souvent. Dans la deuxième partie, on révisera aussi une partie importante qui est à travers le détecteur ionique de fumée, savoir établir les équations horaires du mouvement dans le cadre d'une particule soumise à un champ électrique. La méthodologie est la même que un objet soumis au champ de pesanteur, on le reverra tout à l'heure. Et enfin, la dernière partie, comme un petit problème, permet de revoir aussi la notion de décibel, de niveau d'intensité sonore. Alors c'est parti pour la première partie. Donc on nous demande, on nous dit que le récepteur photosensible ne détecte que les rayonnements appartenant au domaine de l'infrarouge et de vérifier que le rayonnement lumineux émis par la DEL utilisé dans le détecteur optique de fumée appartient bien à ce domaine. Pour cela, on a l'énergie des photons émis qui est de l'ordre de 1,4 électronvolts. Et pour ça, il faut se souvenir qu'il y a un lien entre l'énergie, la fréquence et donc la longueur d'onde. D'après la relation dite de Planck-Einstein, relation à connaître par cœur qui tombe aussi très souvent, donc l'énergie est proportionnelle à la fréquence, ça se note E égale h fois nu ou h fois f, et il faut savoir tout de suite passer de la fréquence à la longueur d'onde. La fréquence c'est c sur lambda, c'est la célérité donc de l'onde électromagnétique sur lambda, la longueur d'onde. Ça donne que E finalement c'est h fois c sur lambda, donc si on veut lambda, on l'expression, on la retourne et ça nous donne lambda égale h fois c sur e. Attention, dans cette relation-là, on rappelle que h est une constante appelée constante de Planck qui sera forcément donnée dans la bonne unité. C est la célérité de la lumière dans le vide qui est supposée toujours connue par le candidat, donc à connaître par cœur, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et enfin, e est l'énergie du coup en joules. Et si la longueur d'onde est en mètres. Donc ici, si on retourne, on a lambda égale h fois c sur e. H est bien donné dans la bonne unité. C, vous devez la connaître. Et e est en électronvolts. Donc il faut faire l'effort de conversion, sachant qu'un électronvolt, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules, et qu'on en a 1,4. Finalement, ça nous donne lambda égale donc 6,63 fois 10 moins 34 fois 3 fois 10 puissance 8 sur 1,4 fois 1,6 10 moins 19. Ce qui nous donne à peu près 8,9 fois 10 puissance moins 7 mètres, soit 890 nanomètres, qui est supérieur à 800 nanomètres. On est bien dans le domaine de l'infrarouge. Question 1.2. On admet que les particules solides présentes dans la fumée ont une taille comprise entre 0,1 micromètre et 100 micromètres. Quel phénomène physique peut contribuer à la déviation du faisceau lumineux si des fumées sont présentes, justifiées? Alors on peut penser quand on a des objets comme ça de petite taille au phénomène de diffraction, donc ces particules qui vont diffracter la lumière. Alors pour ça, on peut avoir diffraction quand la lumière elle rencontre des obstacles qui ont une taille qui peuvent aller jusqu'à à peu près 100 fois la longueur d'onde de la lumière. Donc on va vérifier ça tout de suite. Donc la longueur d'onde, vous venez de la déterminer à la question 1. Donc 100 fois la longueur d'onde, ça fait 100 fois 890 nanomètres. Donc ça fait un total de 89 micromètres. Alors on prend le temps là pour la conversion. Donc 890 nanomètres, c'est pareil que 0,89 micromètres. Ou autrement dit, 1 micromètre, c'est 10 puissance moins 6 mètres, c'est-à-dire c'est 1000 fois plus grand qu'un nanomètre. Donc 1 micromètre, c'est 1000 nanomètres. Donc 890 nanomètres, ça fait 0,89 micromètres. Donc on peut aller jusqu'à 100 fois 0,89 micromètres pour qu'il y ait diffraction. Donc ça fait 89 micromètres. Or, on nous dit que la taille doit être comprise entre 0,1 et 100 micromètres. On est bien dans le bon intervalle. Et donc les particules de fumée, elles peuvent justement diffracter la lumière et expliquer justement que le faisceau lumineux il est bien dévié si des fumées sont présentes. Question 1.3. En présence de fumée, le rayonnement émis par la DEL est dévié dans toutes les directions. Expliquez brièvement pourquoi l'alarme ne se déclenche pas, ne se déclenche pardon, qu'en présence de fumée. Donc ça veut dire autrement dit qu'elle ne se déclenche pas cette alarme s'il n'y a pas de fumée. Alors on regarde le schéma. S'il n'y a pas de fumée, on voit la DEL qui émet le rayonnement infrarouge et on voit le récepteur qui est censé réceptionner donc le rayonnement. Et s'il reçoit un rayonnement, ça voudrait dire qu'il y a de la fumée. Alors s'il n'y a pas de fumée, on voit que l'émetteur et le récepteur ne sont pas en ligne droite. Et on sait que la lumière a sa trajectoire normale en ligne droite. Donc comme elles ne sont pas en face l'une de l'autre, le récepteur ne peut pas recevoir la lumière de l'émetteur. Mais il y a une autre possibilité, on peut se dire, c'est qu'on sait que la lumière elle peut se réfléchir, comme avec un miroir sur une zone d'un matériau. Il y a une partie qui l'absorbe et puis une partie qui est réfléchie et qui pourrait aller comme ça directement de l'émetteur au récepteur. Ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que le matériau absorbe justement ce rayonnement infrarouge. Donc, la seule possibilité pour que la lumière émise de l'émetteur arrive au récepteur, c'est qu'il y ait des petits obstacles qui sont justement la fumée qui va pouvoir diffracter la lumière dans toutes les directions et pouvoir atteindre ainsi le récepteur. Question 2.1. Alors c'est souvent si on a un exercice au mois de juin sur les champs électriques, une des premières questions, on nous demande de calculer le poids justement de la petite particule, la force électrique et de montrer finalement que le poids il est négligeable devant la force électrique et que après on ne considère que la force électrique qui agit sur la particule. Ce qu'on fait, donc là ici on demande de vérifier quantitativement, donc il faut faire un calcul. On sait que le poids de la particule c'est P égale m fois g. La masse de la particule était donnée en kilogrammes et le g est toujours aux alentours de 10, de 9,80. Ici pris 9,80, on prend bien la bonne valeur. Donc 6,64 fois 10 moins 27 multiplié par 9,81, ça nous donne 6,51 fois 10 puissance moins 26 newton pour le poids de la particule alpha. En ce qui concerne la force électrique, à se souvenir comment on calcule une force électrique, c'est Q fois le champ électrique, Q fois E. La charge de la particule alpha, on nous dit que c'est 2 fois la charge élémentaire, 2E, donc 2 fois 1, 6, 10 puissance, moins 19 coulombs. Et le champ électrique, on nous rappelle que pour un condensateur comme ça, plan, on peut calculer rapidement le champ électrique comme U, la tension aux bornes de ce condensateur divisée par les distances entre les deux plaques, la plaque positive et la plaque négative. Donc ce qui nous donne finalement la force électrique, c'est 2 fois E fois U sur D. Donc 2 fois 1, 6, 10 moins 19 fois 9 volts divisé par, donc attention, la distance c'est 3 cm. On sait que dans les formules, toujours faire l'effort de convertir en mètres, donc sur 3 fois 10 moins 2, ce qui nous donne 9,6 fois 10 puissance moins 17 newtons. Donc dans le match, on a d'un côté 6,51 10 moins 26 newtons versus 9,6 fois 10 moins 17 newtons. Largement, vu la puissance de 10, c'est la force électrique qui l'emporte sur le poids. Et donc on va pouvoir considérer pour les questions d'après qu'il n'y a qu'une seule force finalement qui s'exerce sur la particule alpha, c'est la force électrique. Question de 2. Donc reproduire sur la copie le schéma de la figure 3 et on a plusieurs choses. Donc y représenter le champ électrostatique E, la force électrostatique donc FE que subit la particule alpha et on doit justifier. Alors déjà le champ électrique, il faut se rappeler que c'est toujours selon les potentiels décroissants, donc son sens, c'est-à-dire toujours de la plaque positive vers la plaque négative et perpendiculaire justement ce champ aux plaques. Donc pour ça, on voit le vecteur E là sur la correction, donc qui est perpendiculaire aux deux plaques positives et négatives, et dans le sens des potentiels décroissants, c'est-à-dire de la plaque positive vers la plaque pardon, négative. Donc ça, c'est déjà une chose, on a représenté le champ électrique E, vecteur. Maintenant, la force électrique, on a donné son expression tout à l'heure, c'est Q fois le champ électrique E. Q c'est 2 fois E fois le champ électrique E. E est positif, le petit e, la charge élémentaire est positive, ce qui veut dire que FE, la force électrique, et E, le champ électrique, sont dans la même direction, mais aussi dans le même sens. Donc c'est-à-dire vers le haut. Notre force électrique va être aussi vers le haut. Question 2.3, question classique aussi. Alors c'est la même méthodologie que pour quand on a donc par exemple un boulet de canon et qu'on veut savoir les équations du mouvement, dans un champ de pesanteur. Là, c'est une particule dans un champ électrique. On applique toujours la même méthodologie. Alors, c'est pas très simple parce que c'est très mathématique après, mais toujours, on repart aux fondamentaux. Première chose à faire quand on a ce type de problème-là, on applique la deuxième loi de Newton à notre particule alpha dans le référentiel terrestre qui est supposé galiléen, ce qui donne somme des forces est égale au produit donc de la masse fois l'accélération, sachant que donc la masse fois l'accélération égale somme des forces, on a dit qu'il n'y avait qu'une seule force qui était la force électrique qu'on pouvait exprimer comme 2 fois E, petit e, fois grand E. Le champ électrique égale donc à la masse alpha fois l'accélération, ce qui donne finalement que l'accélération c'est 2 fois petit e fois grand E vecteur sur m alpha. Une fois qu'on a l'accélération, on y va progressivement, puisqu'on sait que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Pour avoir la vitesse déjà, il va falloir intégrer, prendre une primitive à l'accélération. Pour ça, avant de faire ça, on projette donc l'accélération qu'on vient de trouver sur les axes qu'on nous propose. Donc on nous propose deux systèmes d'axes, OX et OY, OX horizontal, OY vertical. Et on vient de dire que l'accélération, elle est que selon le vecteur E, le champ électrique, c'est-à-dire qu'elle est que selon notre accélération, l'axe OY. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'accélération selon x. Donc tout de suite, AX est égal à 0. Et AY, en projetant ce qu'on vient de dire, ça fait 2 fois petit e fois e sur m alpha. Et e, on sait aussi que c'est u sur d. Donc finalement, ça nous donne que l'accélération selon y, c'est 2e fois u sur m fois d. Maintenant, pour avoir la vitesse selon x et selon y, on va primitiver selon x et selon y l'accélération. On sait que l'accélération selon x est égale à 0. Donc une primitive de 0, c'est une constante qu'on va noter C1. La vitesse selon y, c'est une primitive de AY qui est une constante. Donc la primitive d'une constante, c'est la constante fois t plus une deuxième constante qu'on va noter C2, ce qui nous donne 2eu sur m fois d fois t plus C2. Comment on trouve encore une fois nos constantes? Eh bien toujours avec les conditions initiales. C'est pour ça qu'il est important de bien se souvenir de la méthodologie. Condition initiale, c'est condition à t égale 0. Et on regarde donc deux choses. Ce qu'on vient de dire, le vx de t, vy de t à t égale 0. Et également le schéma qui nous précise des conditions initiales. Le vecteur v0, il est seulement selon l'axe x, comme on peut le voir sur le schéma. Donc c'est-à-dire que v0 selon x, c'est v0. Et v0, y, il n'y a pas de vitesse, donc ça va être 0. Donc on va avoir déjà les conditions initiales, v0x égale v0 et v0y égale 0. Mais c'est quoi v0 aussi? C'est v égale t égale 0. Donc c'est-à-dire que vx à t égale 0, on l'a appelé c1 tout à l'heure. Donc tout de suite, c1 vaut v0. Et vy à t égale 0, ben on remplace donc dans la formule 2 fois e fois u sur m fois d fois 0, ce qui fait 0, plus c2. Donc on a c2 qui est égal à vy. Y à t égale 0, c'est-à-dire 0. Et donc on a finalement que Vx vaut V0 et Vy vaut 2EU sur m fois d fois t. Donc si on appelle par exemple G le centre de masse, le centre d'inertie de la particule alpha, on sait que la vitesse est la dérivée de OG, du vecteur position par rapport au temps, donc dOG sur dt. Ce qui veut dire que OG est une primitive de la vitesse. Donc on veut x de t et y de t. Pour avoir x de t, on va primitiver v de x, c'est-à-dire v0, ce qui va nous donner v0 t plus c3. Et pour avoir y de t, on va primitiver vy, c'est-à-dire il faut une primitive à quelque chose fois t. Et la primitive de t, on se souvient que c'est t carré sur 2, c'est un demi de t au carré. Ce qui nous donne finalement, primitivant, 2eu sur 2 fois m fois d fois t au carré, plus une constante qu'on va noter C4. Comment nous allons trouver les constantes C3 et C4? Encore une fois, par les conditions initiales. À t égale 0, on sait que le point G, il est confondu pardon, avec l'origine, avec le 0 du repère. Donc ce qui nous donne tout de suite que x à t égale 0 vaut 0, y à t égale 0 vaut aussi 0. Et donc en remplaçant, on a que x à t égale 0, c'est C3, et y à t égale 0, c'est C4. Et donc que finalement C3 égale C4 égale 0. Et donc on a bien retrouvé ce qu'on nous demandait à la question 2.3. X de t c'est V0t et Y de t c'est EU sur M. fois d fois t au carré. Question qui vient souvent quand on a les équations horaires du mouvement, donc les équations avec le temps, c'est d'avoir après la trajectoire pour pouvoir travailler justement avec les questions qu'on nous demande. On nous demande justement de déterminer la valeur de la coordonnée y de la particule lorsqu'elle a parcouru une certaine distance. C'est-à-dire il nous faudrait y en fonction de x. Et là, à l'aide de la question d'avant, on n'a que x en fonction de t et y en fonction du temps. Pour ça, on sait on va exprimer le temps dans l'équation la plus simple, c'est-à-dire la première avec x de t. Donc t, ça vaut x sur v0, et on l'injecte après dans l'expression pour avoir l'expression de la trajectoire. Et on nous dit que la distance, on va pas l'appeler x, là on va l'appeler l. Donc ce qui nous donne que t, c'est l sur v0. On réinjecte ça dans y, et ça nous donne y de l, EU sur m fois d, fois l sur v0, le tout au carré. On va pouvoir faire l'application numérique puisqu'on a toutes maintenant les données, E fois U sur M fois D fois L carré sur V0 carré, E 1 6 10 moins 19 coulombs, U c'est 9 volts de tout à l'heure, le L au carré donc c'est, on nous dit à 4 cm, donc bien penser toujours qu'on a des centimètres, des millimètres à mettre en mètres dans les formules fondamentales, 4 fois 10 moins 2 au carré, divisé par après la masse de la particule alpha, on l'a vu tout à l'heure, 6,64 10 moins 27 kg, fois donc le petit d qu'on a vu tout à l'heure et qu'on avait déjà converti 3 fois 10 moins 2 en mètres, fois v0 au carré, 1,6 fois 10 puissance 7 au carré. On fait l'application numérique et on trouve une toute petite distance, 4,5 fois 10 puissance moins 8 mètres, c'est-à-dire 45 nanomètres, qui est extrêmement petit, ce qui veut dire que la valeur de y, elle est très proche de 0, que la particule, elle n'est quasiment pas déviée. Donc c'est-à-dire qu'on peut considérer que selon l'axe OY, on n'y est quasiment pas sur l'axe OY, on reste sur l'axe OX, et donc que la trajectoire, c'est bien une droite. Alors en toute rigueur, ça serait une parabole, mais elle est tellement écrasée vers l'axe des X qu'on peut considérer que le mouvement, finalement, il est rectiligne. Et enfin, question 2.5 pour cette partie, on demande de montrer que l'énergie cinétique initiale des particules alpha est suffisante pour ioniser des molécules de dioxygène. Alors on nous disait tout à l'heure que l'énergie suffisante dans les données, c'était 12 électronvolts, il fallait au moins 12 électronvolts par molécule. Alors on va calculer l'énergie cinétique et puis on va la convertir, on sait qu'on va la trouver en joules, on va la convertir en électronvolts pour comparer toujours aux normes qui est ici de 12 électronvolts. Donc se rappeler par cœur l'énergie cinétique, c'est 1 demi fois la masse fois la vitesse au carré. 1 demi c'est 1 demi, la masse est toujours 6,64 10 moins 27, et la vitesse était donnée 1 6 10 puissance 7, et on n'oublie pas le carré sur la calculatrice, ce qui donne 8,5 fois 10 moins 13 joules. On sait que 1 électronvolt c'est 1 6 10 moins 19 joules, et donc en divisant, on obtient, donc ça nous donne 5,3 fois 10 puissance 6 électronvolts, autrement dit 5,3 millions d'électronvolts ou 5,3 méga électronvolts, très supérieur aux 12 électronvolts. Cette énergie cinétique est donc largement supérieure à l'énergie nécessaire pour ioniser nos molécules de dioxygène. On a répondu à la question 2.5. Enfin, pour terminer, niveau d'intensité sonore, un détecteur de fumée c'est bien, mais si on l'entend pas, ça ne sert à rien. Et donc ici, on nous dit que pardon, une personne endormie est réveillée par un bruit dont le niveau d'intensité sonore est supérieur à 75 décibels. Et donc, si la personne, sachant que la hauteur sous plafond où on va mettre ce détecteur est de 2,5 mètres, est-ce que, la question, c'est l'emplacement, est-ce qu'il est bien placé? Autrement dit, il est suffisamment proche, le détecteur de l'oreiller, du lit, pour qu'on puisse l'entendre. Alors, pour ça, on peut faire un schéma, là, comme il y a sur la correction. Avec un triangle, un système de triangle, on va pouvoir appliquer Pythagore pour déterminer la distance qu'il y a et utiliser la relation qu'on nous donne, que le niveau d'intensité sonore L2, c'est L1 plus 20 log de D1 sur D2. Alors allons-y, on prend le triangle APOK et puis on a aussi en dessous, si on considère que le lit a une certaine quand même épaisseur, autrement dit qu'on ne couche pas à même le sol. Donc par exemple ici on a pris 50 cm. Alors après on pourrait le faire 100 et avoir un ordre de grandeur totalement acceptable, ça irait plus vite aussi. Alors ce qui est important pour avoir notre vitesse là V au prime, c'est de bien prendre en compte l'échelle puisqu'on voit que le lit a une largeur de 1,60 m qui correspond sur le schéma à peu près 2,6 cm. On fait un produit en croix pour avoir V au prime, on trouve 3,7 m. Et après, par Pythagore, on peut avoir accès à la distance donc PO, puisque c'est l'hypoténuse. Donc PO carré, c'est K au carré plus KP au carré. Et donc finalement, on connaît donc KP puisque c'est PV moins O au prime. Et donc c'est la hauteur sous plafond 2,5 mètres moins les 50 cm d'épaisseur entre guillemets du lit. Et puis on a aussi KO qui est égal donc à 3,7 mètres d'après ce qu'on a vu tout à l'heure là sur V au prime. En utilisant Pythagore, par application numérique, on trouve que PO vaut 4,2 mètres. Et on réinjecte dans la formule du niveau d'intensité sonore, qui est L1 plus 20 log de D1 sur D2. Ce qui nous donne 85 plus 20 log de 3, donc, puisque l'intensité sonore est évaluée, on nous disait à 85 décibels à 3 mètres. Ici, on a trouvé qu'à 4,2 mètres, on va chercher justement le nombre de décibels. Donc ça nous fait 20 log de 3 sur 4,2. On trouve 82 décibels, ce qui correspond à un niveau d'intensité sonore supérieur aux 75 décibels de la norme, et donc on peut en conclure que le détecteur est bien placé. Donc on aurait pu un peu simplifier en disant que la personne dormait au niveau du sol, ce qui nous aurait donné un même ordre de grandeur. Je vous dis à bientôt.